Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Nous allons parler dans ce journal de l'intervention de la chef de la MONUSCO AI au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire et humanitaire en RDC. La MONUSCO exige en effet un engagement collectif renouvelé en vue de retrouver la paix dans l'est du Congo. 13e conférence de gouverneurs, le président Félix Tshisekedi a procédé au lancement du courant électrique du barrage hydroélectrique de Kakobola à la sous-station de Kikwit. Et le porte-parole du gouvernement, quant à lui, a signé un pacte contre la désinformation avec les étudiants de la ville de Kikwit. Modeste Bahati Lukwebo a été destitué de son poste de président national et autorité morale de l'FDC par un groupe de cadres du parti le mercredi 25 mars 2026. Par la même occasion, Otto Baizi a pris le rein pour gérer la transition jusqu'au prochain congrès. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi ont analysé cette situation qui prévaut au sein de ces partis politiques. Vous allez les suivre à la fin de ce journal. D'abord cette information. La République démocratique du Congo jouera la finale de barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde de football contre la Jamaïque. Ce dernier a validé son ticket après la victoire ce matin de 1-0 face à la Nouvelle-Calédonie. L'unique but de ce match est marqué à la 18e minute par Kadam Martéri. Le match Jamaïque-RDC est prévu le 31 mars à Estadio Akron de Guadalajara au Mexique à 22h heure de Kinshasa. Bonne chance aux fauves congolais. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Situation sécuritaire en RDC, la MONUSCO exige un engagement collectif renouvelé en vue de retrouver la paix dans l'est du Congo. C'est ainsi que s'est exprimée la représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MONUSCO ad interim hier jeudi à New York. C'était lors du briefing trimestriel au Conseil de sécurité des Nations Unies. Par la même occasion, Viviane Van de Perre a invité le Conseil à agir avec fermeté pour prévenir de nouvelles souffrances et aussi sanctionner les auteurs des abus en RDC. Elle a également appelé toutes les parties à honorer leurs engagements afin de combler le fossé entre la diplomatie et la réalité sécuritaire. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Alors que la situation sécuritaire reste instable, la situation humanitaire a considérablement changé. 6,4 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays, dont près de 4 millions dans les provinces de l'Est, la crise humanitaire est encore exacerbée par l'insécurité alimentaire. Si les efforts actuellement déployés au plan humanitaire restent essentiels, ils sont insuffisants et se trouvent aggravés par les problèmes significatifs en matière de financement. Cependant, l'action humanitaire à elle seule ne permettra pas de régler les problèmes, notamment alors que les acteurs humanitaires restent ciblés. J'encourage le Conseil à exercer de son influence pour traduire ses progrès en une réouverture rapide des aéroports de Goma et Kavumu et pour assurer la reprise des vols, les aéroports restant une bouée de sauvetage essentielle pour la population et les acteurs humanitaires dans l'est de la RDC. La situation au niveau national reste fragmentée. À Kinshasa, la reprise des débats sur un dialogue inclusif s'est accompagnée d'une prolifération d'initiatives, semble-t-il, concurrentes. J'encourage tous les acteurs politiques et de la société civile à trouver un terrain d'entente sur la portée, les objectifs et les modalités du dialogue national. Je me félicite aussi de l'ouverture du président Félix Tshisekedi avec l'appui de l'Angola, ouverture à un dialogue national inclusif. Et j'encourage le gouvernement à adopter des mesures de confiance afin d'encourager un dialogue inclusif et constructif de nature à ouvrir la voie vers des élections pacifiques et représentatives en 2028.
Notez par ailleurs que les représentants de plusieurs pays ont, dans leurs interventions, condamné l'attaque qui a conduit à la mort de l'humanitaire française et des civils congolais le 11 mars dernier. À Goma. Sécurité encore. Retour ici à Kinshasa avec cette fois l'interpellation des évêques catholiques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Ils appellent au dialogue, à la paix sociale et à la défense des valeurs humaines. Dans une déclaration publiée hier jeudi à Kinshasa, à l'issue de la session extraordinaire de l'Assemblée plénière tenue du 23 au 25 mars dans la capitale, les prélats dénoncent une situation sécuritaire et humanitaire de plus en plus préoccupante. Ils appellent au soutien au pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs qu'ils présentent comme une initiative éthique et sociale distincte de toute simple négociation politique. politique. On écoute Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, joint par Grace Hamzati.
L'Église doit lever la voix là où il y a injustice, là où la population souffre. Et ils ont dit que, au regard de la situation sécuritaire actuelle avec ses conséquences sur le plan économique, politique et social, ils ne peuvent pas se taire. Et voilà pourquoi ils réaffirment leur conviction selon laquelle le dialogue est supérieur à la guerre. La guerre est l'échec de la politique, la guerre est un échec de l'humanité. Voilà pourquoi ils insistent sur la pertinence de leur initiative à ne surtout pas confondre avec un dialogue qui vise simplement le partage du pouvoir. Les évêques n'ont pas parlé du changement ou révision de la Constitution, simplement parce que leur position est déjà connue là-dessus. Pour les évêques, le principe de la révision est constitutionnel et la Constitution établit, détermine les conditions de cette révision. Mais les évêques insistent sur l'opportunité et au regard de l'environnement sécuritaire actuel, ils sont convaincus que aller dans cette situation-là, c'est aggraver la crise.
Puisque nous venons d'effleurer les Grands Lacs, sachez que Reporters sans frontières vient de dévoiler son rapport. Les pays des Grands Lacs restent de mauvais élèves en matière de liberté de presse, note l'ONG RCF dans ses documents publiés hier jeudi à Kinshasa. L'organisation révèle qu'au cours des 10 dernières années, près de 500 journalistes ont été détenus dans la région, dont la moitié en RDC en raison de leur travail. Ainsi, les directeurs du bureau Afrique des Reporters sans frontières recommande aux États de cette sous-région de garantir la sécurité des journalistes en mettant en place des mécanismes indépendants de protection dotés des systèmes d'alerte. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans son rapport de 6 pages, l'ONG Reporters sans frontières note que sur les 10 dernières années, 10 journalistes ont été tués et 5 autres ont disparu dans l'exercice de leur métier dans la région des Grands Lacs. Cette organisation déplore également qu'au moins 33 radios communautaires aient subi des pillages ou des suspensions depuis janvier 2024 dans la province du Nord Kivu. RSF reproche aux autorités congolaises via l'organe de régulation des médias d'exercer des pressions sur les traitements médiatiques du conflit à l'échelle nationale. Cette ONG recommande aux États des Grands Lacs de mettre fin aux attaques physiques et aux menaces contre les journalistes ainsi que d'ouvrir systématiquement des enquêtes en cas d'atteinte visant les professionnels des médias. Dans ces documents, les gouvernements de la région sont également encouragés à faciliter le travail des correspondants internationaux et indépendants en rendant les procédures d'accréditation plus transparentes. Pour sa part, le directeur du bureau Afrique du RSF plaide pour la révision des lois pénales et des réglementations sur la presse afin de garantir que les journalistes puissent exercer leur métier sans risque de poursuites arbitraires.
De nouvelles de Bandundu où le président de la République réside depuis le début de cette semaine. Félix-Antoine Tshisekedi a procédé hier jeudi au lancement du courant électrique du barrage hydroélectrique de Kakobola à la sous-station de Kikwit. Au programme également l'inauguration de la messe des officiers des forces armées de la RDC de la 11e région militaire et de la polyclinique des militaires au camp Ebeya à Kikwit. De son côté, le porte-parole du gouvernement a signé un pacte contre la désinformation au sujet de l'accord de Washington avec les étudiants dans la ville de Kikwit. C'était lors d'une conférence que le ministre Patrick Muyaya a tenue hier jeudi sur les bien fondés de l'accord de Washington et de l'accord de paix avec le Rwanda à l'université de Kikwit. Le porte-parole du gouvernement a rassuré qu'aucune concession n'a été faite concernant les territoires nationaux, moins encore sur les ressources naturelles de la RDC. Les propos du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, sont recueillis par notre correspondant Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision de Bandundu. Suivez.
Je crois que c'était un moment de change qui a permis aux uns aux autres de comprendre la stratégie du président de la République. La guerre ici, c'est une guerre qui la trouve. La guerre, elle dure 32 ans ou 30 ans, si on doit compter, 30 ans si on doit compté depuis 96, il y a eu beaucoup des Congolais qui sont morts, mais aujourd'hui il y a une détermination pour qu'on en finisse. Et cet accord, les accords de Washington, ne nous permettent pas seulement de mettre fin à la guerre, et ils nous permettent aussi d'envisager notre développement dans le cadre du partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Alors j'ai eu l'occasion d'expliquer à la fois l'accord de paix avec le Rwanda qui vient marquer la fin du mensonge du Rwanda, qui n'a jamais reconnu que ses troupes étaient sur le territoire congolais. Comment vous voulez signer un accord de paix lorsque vous n'êtes pas en conflit avec un État? Donc le premier bénéfice de cet accord, c'est la fin de ce mensonge. Mais aussi, j'ai rappelé les lignes rouges. Parce que dans les cas de ces échanges que nous avons eu à Washington, ces discussions, nos lignes rouges étaient bien connues dès le premier jour.
De l'ouest, passons dans l'est du pays et précisément à Lubero, au nord Kivu, où des troupes supposées de l'FC-M23 ou de l'armée rwandaise se retireraient de plusieurs villages qu'elles occupaient depuis plus d'une année. Ce retrait constaté depuis la nuit de lundi alimente les interrogations et inquiétudes dans la région. Les détails avec Martial Papimukeba.
Ce mouvement de retrait est observé dans plusieurs villages et localités situés au sud et à l'est de Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Selon des sources locales, les éléments de l'AFC M23 se rassembleraient désormais dans les cités d'Alimbongo, Kirumba et Kanyabayonga dans les mêmes territoires. À Kamandilak, on signale l'évacuation des matériels militaires à travers des embarcations jusqu'à la cité lacustre de Vichumbi dans les territoires de Rutshuru. Des sources sécuritaires indique que ces retraits concernent plutôt les troupes de l'armée rwandaise qui appuyaient l'AFC M23 dans la zone. Elle précise que ces mouvements pourraient être suivis par un retrait de l'armée ougandaise déployé depuis plus d'un an dans la zone Tampo entre la localité de Katondi et Lubero Centre. Contacté par Radio Okapi, le gouverneur du Nord Kivu, le général Evariste Kakule Somodi, appelait la population au calme et à observer les retraits effectifs des troupes rwandaises du territoire congolais dans le cadre de l'exécution des accords de paix, notamment ceux ici du processus de Washington. Le gouverneur ajoute que l'armée poursuit toutefois la traque des ADF à travers des opérations conjointes avec l'UPDF. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Suite de la situation des pénuries du carburant dans la capitale, en tout cas, un retour à la normale a été constaté hier jeudi 26 mars dans les stations-service de Kinshasa après deux jours de tensions liées au ravitaillement en carburant. Le directeur général de CEP Congo, Malik Ndiaye, avait assuré que les stocks de gasoil et d'essence disponibles pouvaient desservir Kinshasa ainsi que l'intérieur du pays. Des chauffeurs rencontrés par notre reporter sur le terrain confirment qu'ils n'ont rencontré aucune difficulté pour se procurer du carburant. Les détails avec John Chibwabo.
À Kitamo Magasin, dans une station-service totale, aucun engouement n'a été observé. Pas de longues files d'attente ni de bousculades pour se ravitailler. Ce jeudi, l'approvisionnement se déroule en toute quiétude, témoignent les chauffeurs rencontrés sur place.
Maintenant, nous sommes à l'aise. La station est vide. Dès que tu entres, tu te ravitailles directement. On ne souffre plus. Avant, les stations étaient pleines. On y passait 4 à 5 heures pour se ravitailler et on a même passé la nuit dehors.
La situation a été décomptée. Nous avons constaté que toutes les stations vendent le carburant. Tout est redevenu à la normale.
La situation observée lundi et mardi était chaotique. La souffrance était énorme et il y avait des embouteillages partout. Les gens ne s'attendaient pas à une telle situation. Mais depuis hier jusqu'aujourd'hui, les stations sont libérées et on peut se ravitailler.
Ce retour à la normale intervient après la visite de la ministre d'État en charge des hydrocarbures dans les installations des CEP Congo. La ville de Kinshasa ne connaît aucune pénurie, avait rassuré Akasia Bandoubola lors de cette visite.
Suspension aussi depuis mercredi de la grève des travailleurs du secteur du commerce après deux jours de tensions sociales à Kinshasa. Selon les syndicats de ces travailleurs, cette décision fait suite à deux avancées majeures. L'envoi par le ministre du Travail d'une mission d'inspection chargée de contrôler les employeurs récalcitrants ainsi que l'engagement de certains d'entre eux à appliquer les SMIG d'ici la fin du mois avec la signature de protocoles d'accord. Les tensions entre les États-Unis, Israël et Iran tensions au Moyen-Orient continuent d'entraîner des répercussions bien au-delà de cette région stratégique. À Bounia, dans la province de l'Ituri, par exemple, des opérateurs économiques et des consommateurs commencent déjà à ressentir les effets de cette crise, notamment à travers la hausse des coûts d'importation et du carburant. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
À Bounia, plusieurs opérateurs économiques en font déjà les frais. C'est le cas de Blaise Afourou, jeune commerçant qui, après avoir investi une importante somme d'argent pour importer des marchandises de Dubaï, voit aujourd'hui ses cargaisons bloquées, faute de moyens de transport pour les acheminer jusqu'à destination. Nous sommes très affectés. Toutes nos marchandises sont bloquées car il n'y a pas de cargo pour les transporter à Bounia. Pourtant, nous y avons investi tout notre capital. Un autre opérateur économique rencontré à Bounia explique que cette situation entraîne automatiquement une augmentation des prix des produits de première nécessité. Lucien Mouliri.
C'est là pour raison le fait que le carburant aussi a augmenté les prix. Et cette augmentation du prix a sans nul doute une conséquence néfaste sur les activités et même sur la vie de la population.
Face à la hausse généralisée des prix, de nombreux ménages peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens, comme le témoigne Madame Béatrice Divé.
Par exemple, un bidon d'huile, on les prenait à 30 dollars. Aujourd'hui, c'est passé carrément à 37 dollars, 38 dollars. Les riz qu'on achetait à 20 dollars, c'est passé carrément à 25 dollars.
Une situation qui inquiète opérateurs économiques et consommateurs dans un contexte où le pouvoir d'achat reste déjà très fragile. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des pourparlers indirects sont en cours entre les États-Unis et l'Iran avec le Pakistan qui tient le rôle d'intermédiaire. Le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar, l'a reconnu officiellement jeudi 26 mars 2026. D'autres pays comme la Turquie et l'Égypte sont impliqués. Un peu plus tôt dans la semaine, le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, avait assuré que le pays était prêt à accueillir des pourparlers.
L'invité.
Modeste Bahati Lukwebo a été destitué de son poste de président national et autorité morale de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, FDC, par un groupe de cadres du parti le mercredi 25 mars 2026. Par la même occasion, Otto Baizi a pris les rênes pour gérer la transition jusqu'au prochain congrès. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi ont analysé cette situation qui prévaut au sein du parti politique FDC. On les écoute au micro de Guy Maté Tsongo.
Jean-Claude Pokuta, vous êtes avocat et secrétaire général adjoint de l'AFDC en charge des questions juridiques. Vous soutenez Modeste Bahati Lukwebo. Comment vous réagissez à cette décision prise par un groupe de cadres de l'AFDC destituant le sénateur Bahati Lukwebo de son poste de président national et autorité morale de l'AFDC?
Vous savez que l'AFDC a tenu son congrès récemment le 15 mars, il y a 11 jours, ici à Kinshasa, à l'hôtel Béatrice. Et au cours de ce congrès, M. Otto Baizi a participé comme congressiste, ainsi que la plupart des personnes qui l'entouraient dans les déclarations. Donc ça a été pour nous une surprise de constater que le 25, M. Otto Baizi va s'autoproclamer président de l'AFDC, faisant fonction. Et ils vont décréter une transition, je ne sais pas de quelle manière.
Ceux qui l'ont destitué disent qu'il y a eu divergence de vue avec lui par rapport justement à cette question liée à la Constitution.
Non.
Ils disent qu'il y a divergence de vue.
Il n'y a pas divergence de vue parce que la question n'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est que le président Modeste Bahati Lukwebo a émis un avis qui ne concernait que sa propre personne et qui n'est pas contraire parce qu'il n'a jamais dit qu'on ne peut pas modifier la Constitution. Il a dit s'il y a des questions liées à la modification, qu'on mette sur la table, qu'on discute. Et lui n'est pas opposé à la modification. Mais il ne connaît pas les changements. Il a dit les changements de la Constitution, ça il ne connaît pas. Mais au moins la modification, s'il y a des questions, qu'on mette sur la table et on en discute.
On lui reproche aussi sa gestion opaque du parti. Comment vous réagissez à cela?
Oui, d'abord le frondeur. Et même d'abord, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils recherchent lorsqu'ils tentent de destituer de manière abusive le
gestion
président
opaque
modeste.
Du parti.
Parce que la gestion opaque du parti signifie quoi? Parce que le parti fonctionne de manière démocratique chez nous. Nous avons des organes qui sont là. Et les décisions sont prises par les organes concernés du parti. Donc, M. Modeste Bahati Lukwebo n'est pas là pour prendre des décisions de manière inique.
Quand vous essayez de réfléchir à cette situation, vous ne vous posez pas la question de savoir qui pourrait être en train de tirer les ficelles.
Bon, nous n'allons pas soupçonner les tireurs de ficelles, parce que jusque-là, nous ne connaissons pas qui tire les ficelles, mais nous les voyons, lui, en train de divaguer, en train d'agir, et de la manière dont il agit. Et il oublie que l'AFDC avait connu la même situation il y a de cela plusieurs années, en 2020. Nous avons connu une fronde avec Nene Nkulu, qui s'était autoproclamé, hein, avec Djanga, qui fit notre secrétaire général. Mais où est-ce qu'ils ont fini? Il y a eu des actions judiciaires. Ils ont été condamnés, arrêtés. Il y en a qui ont même fui.
Merci, Itiel Batoumike. Vous êtes analyste politique à Ebouteli, Institut congolais des recherches sur la politique et la violence en RDC. Quelle lecture vous faites de cette situation qui prévaut au sein du parti politique AFDC?
Cette situation n'est pas nouvelle. C'est une situation qui est déjà vécue, comme venait de le rappeler les co-débatteurs. En fait, c'est une situation qui n'est pas inédite. En 2019, lorsque Bahati Lukwebo avait s'était opposé à la décision du FCC, on a vu qu'il y a eu cette tentative réussie à cette époque de dédoubler son regroupement politique, la FDC, et il y a eu des élus qui étaient restés dans le FCC et d'autres qui ont finalement acquis le statut de non-inscrits à l'Assemblée nationale, restant fidèle à Bahati Lukwebo.
Etienne, vous rappelez que 7 ans après, la même situation se répète. Peut-on dire que on n'a pas tiré les leçons de l'histoire?
Je pense qu'on n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Aussi dans la manière dont les débats sont organisés au sein du parti politique. Et je pense que cette personnalisation des partis autour de leur leader est aussi problématique. Pourquoi je l'ai dit? Le co-débatteur a beau de pouvoir dire ici que leur parti est démocratique et que l'opinion qui a été émise par le président de l'AFDC était à titre personnel, mais on va constater quand même que répondant sur une question de ses affaires privées, il est allé faire la conférence de presse au siège de l'AFDC. Je ne vois pas quel était le rapport entre les accusations qui étaient portées contre Bahati Lukwebo et les sièges de l'AFDC. Donc le problème part de là aussi. On a des leaders politiques qui confondent les partis politiques à leur boutique personnelle.
Vous pouvez suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal parlé du matin, préparée pour vous par Lievin Mbuinga Vubu et mise en onde par Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis.